voix nue. Cette semaine, Joël Gaillot rencontre André Dussolier. Ce soir, il connaît la chanson.
Bonsoir André Dussolier.
Bonsoir.
C'est certain, on ne fait pas le tour d'un homme en 5 entretiens d'une demi-heure. Mais si dans ce dernier rendez-vous qui nous réunit aujourd'hui, nous ne parlions pas de l'importance dans votre vie des mots et des auteurs, des langues et des écritures, alors vraiment nous serions coupables d'une grande négligence. Après avoir exploré cet art de l'acteur dont vous êtes le passeur et l'incarnation, il est temps d'arriver en terre d'écriture. Dans ce domaine, vous connaissez la chanson, les mots, vous y êtes à votre aise, et je pense qu'à l'inverse, les mots, eux aussi, se sentent très bien chez vous. Je vous propose d'ouvrir cette séquence par un retour sur ce dernier spectacle que vous avez interprété sur de nombreuses scènes. Je pense à Novecento, on en a déjà parlé, on va en reparler. D'après le récit d'Alessandro Baricco, l'histoire est celle d'un homme qui est abandonné bébé dans les entrailles d'un paquebot. Il ne quittera jamais la cale de ce navire où il deviendra un pianiste d'exception. Ce spectacle musical, vous l'avez conçu, vous le jouez comme un flux perpétuel. D'où ma première question, André Dussolier, est-ce que vous dansez? Est-ce que vous boxez ou est-ce que vous faites l'amour avec les mots?
Un peu de tout à la fois, c'est joli. C'est joli, ils m'ont dit, j'avais jamais pensé à le raconter comme ça, comme vous le faites. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Je joue dans ce spectacle. Enfin, maintenant, on a fait beaucoup de représentations. On va s'arrêter là. Mais j'ai joué avec un quatuor de musiciens et donc c'était tout à fait différent pour moi. J'étais avec des partenaires qui s'exprimaient ou me répondait ou parlait avec moi avec la musique, quoi. Et donc du coup c'était beau d'ailleurs de pouvoir dialoguer avec des musiciens que j'interrogeais avec mes mots et qui me répondaient avec des notes de musique. Je pense aux pianistes en particulier. Eh bien tout d'un coup eux qui ont une oreille un peu différente, je sais pas, mais qui parlent beaucoup avec leurs instruments, donc du coup disaient, mais la voix ou ta voix c'est comme aussi un instrument de musique, tu joues avec. On n'a pas conscience de tout ça, même si c'est quelque chose que j'aime depuis toujours, c'est vrai, les mots. Mais ça s'est fait petit à petit, quoi, parce que vraiment les mots, c'est par la lecture que je les ai découverts. Alors j'en ai découvert des milliers et à travers des siècles et des auteurs tout à fait différents et tout à fait opposés.
Et là, vous parlez de lecture silencieuse chez voilà. Vous avec un livre.
Voilà, c'est vrai. Mais je prenais cet exemple exprès parce que il m'est arrivé, comme tout étudiant, de lire Proust. Et franchement, Proust, on sait qu'il fait des phrases très longues. Et donc, l'œil est un peu paresseux. Et donc, je croyais avoir compris la phrase. Et puis bon, je la trouvais fatalement, comme la plupart des étudiants, un peu ennuyeuse. Et puis, un jour, j'ai été amené, parce qu'on me l'a proposé, à le dire. Et en le disant, tout d'un coup, j'ai rencontré Proust, parce que j'ai découvert son humour, sa finesse d'analyse, sa subtilité, et ses phrases très longues me paraissaient être des joyaux d'invention, de fantaisie, de construction vraiment extraordinaires. Je parle de ça exprès parce que quand on a un texte, quand on est comédien, quand on est interprète, on a envie, comme vous dites, de boxer, de jouer, de danser avec les mots, parce que les mots, c'est vraiment le moyen de faire passer un message, de faire comprendre un peu l'histoire, de raconter un peu les choses, mais aussi l'inflexion, la manière, la musicalité des mots, la manière de parler qui appartient à chacun. On a parlé pendant ces émissions de Jean-Louis Trintignant, mais il y a des voix auxquelles je suis extrêmement sensible, et je me dis, mais ça vient d'où? Et une voix, ça raconte quelqu'un. Et c'est vrai que les mots, la manière d'approcher ou de s'approprier une phrase ou les mots eux-mêmes, et même c'est vraiment très personnel. Et même à chaque représentation, franchement, j'aimais bien me surprendre aussi par la manière dont je pouvais tout d'un coup ressortir un mot ou aller le chercher de façon un peu différente de la veille. Il y a un jeu dans lequel on peut danser avec le spectateur, oui, ou l'auditeur, parce que tout d'un coup il vous perçoit. Vous savez que la radio, j'ai toujours aimé la radio énormément.
Et la radio vous aime. Vous avez fait beaucoup de lectures pour France Culture notamment.
Oui. Parce que la télévision est arrivée très tard dans ma jeunesse, j'avais 13-14 ans, et donc j'ai écouté beaucoup la radio. Et comme Orson Welles l'a dit, lui qui a fait croire aux Américains que les Martiens avaient débarqué, la radio a ceci de supérieur au cinéma, c'est qu'à la radio, l'écran est plus large. Et c'est vrai qu'on écoute et qu'on imagine quoi, tellement de choses quand on écoute une voix à la radio. Maintenant, c'est vrai que quelquefois, j'ai cet immense regret de voir à la télévision ou à la radio, dans les débats, les gens qui n'arrivent plus à exprimer leurs pensées, qui sont interrompus très rapidement. Et je ne sais pas si une Marguerite Duras, aujourd'hui, pourrait faire des interviews. Quoi. Et je pense qu'au bout 7 secondes, je crois que je me suis laissé dire qu'à la radio, 7 secondes de silence provoquait le déclenchement d'une musique pour faire croire à l'auditeur que la radio n'était pas en panne. Donc le silence aussi, à travers le silence qu'on écoute à la radio ou qu'on peut même restituer à travers les enregistrements de textes ou bien de pièces, comme il m'est arrivé de le faire à la radio, j'adorais ça. J'adore ce pouvoir qu'on a de raconter l'histoire aussi à travers les silences et à travers la voix. Et la voix, c'est vrai, c'est un instrument majeur, évidemment, pour nous, mais pas seulement quand on est au cinéma ou au théâtre, s'il y a tout le corps qui s'exprime. Mais la voix, c'est comme un violon, un archet avec lequel on joue, comme si vraiment, tout d'un coup, la voix, c'est comme si c'était la main qui était libre et qui pouvait se promener sur le violon que nous sommes, quoi. Voilà, en gros.
Repartons de cette histoire de Proust que vous avez compris en le disant.
Oui.
Pas en le lisant, André Dussolier. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, au fond, que le comédien que vous êtes comprend un texte avec, d'une part, son intellect, mais que son corps aussi comprend le texte ? Parce que je suis très frappée d'une chose, depuis qu'on mène ces entretiens, c'est-à-dire depuis lundi, je vous pose parfois des questions. Des fois, vous ne me regardez pas, vous plongez en vous-même,
oui.
Vous baissez les paupières, vous fermez les yeux, et ensemble, vous rentrez à l'intérieur de vous pour aller chercher la réponse.
Oui.
Et là, vous avez ouvert votre corps, je le dis à l'auditeur qui ne vous voit pas, et vos bras se sont ouverts également, comme si vous accueilliez quelque chose qui est effectivement le mot. Est-ce que votre corps, mais quand je dis votre corps, c'est-à-dire vos bras, votre torse, votre cou, votre visage, comprend physiquement le texte qu'il est en train de dire devant un public, André Dussolier ?
Oui. Je crois que je suis né dans le silence et que j'entendais beaucoup régner autour de moi à la maison, fils unique, dans la nature, comme ça, mes parents parlant pas beaucoup. Donc du coup, c'est vrai que je suis resté, et en plus les enfants de mon époque, quand on ne pouvait pas forcément les garder et être près d'eux quand ils dormaient l'après-midi, les bébés, enfin, on les emmaillotait. On les mettait dans des bandelettes qui, pour éviter tout accident, et on les posait là sur le lit sans surveillance, et comme ça on avait l'impression, et donc j'ai l'impression de m'être libéré de mes bandelettes que j'avais dans mon enfance, autant parce que j'appartiens aussi à une famille italienne d'une certaine façon, Bozzetto, qui venait de Vercelli, enfin près de Turin, et donc j'avais besoin de me libérer, autant par le geste, que par la parole, que par la voix, toutes les sources de libération, de liberté, je les ai saisies. Et c'est vrai que le théâtre m'a permis de me libérer, peut-être, mais la voix aussi était un instrument dont j'avais vraiment envie de me servir. Et puis, en effet, vous avez raison de dire que l'incarnation, elle fait pas l'économie d'une partie du corps, quoi. Il y a tout le corps qui participe. Et une véritable incarnation, c'est ça. C'est vraiment. D'ailleurs, quand j'ai commencé à répéter Mélo, alors là, vous voyez, c'est un comédien, quand il a envie de séduire ou de convaincre son partenaire ou le metteur en scène au tout début, eh bien, dans ce personnage-là, je me suis aperçu, j'avais un récit assez long de 9 minutes et demie au début du film, eh bien, je parlais beaucoup avec mes bras, avec mes gestes. Et puis, petit à petit, quand le personnage, on l'acquiert, on l'accapare, on l'incarne vraiment, tout d'un coup, je n'avais plus besoin de bouger. Je n'avais plus besoin de démontrer, quoi. Jouer, c'est vraiment, c'est pas démontrer, quoi. C'est vivre, vraiment, à 100%. Et donc, du coup, tout ce qui peut venir, les gestes, les mouvements, c'est vrai qu'en ce moment, on se parle, je vous regarde et que je sais très bien, vous avez raison de faire allusion tout à l'heure, l'auditeur ne pouvait pas le savoir, mais quand j'essaye de répondre le plus franchement possible, je rentre en moi et j'essaie de suivre mon idée. Et là, je sais pas pourquoi, on parle des mots, c'est peut-être pas un hasard.
C'est frappant, hein ?
Oui, c'est frappant. Et tout d'un coup, il y a un échange. Et cet échange, voilà, j'en ai tellement eu besoin que tout d'un coup, le théâtre m'offre cette possibilité de le pratiquer et aussi de me servir de tout mon corps pour exprimer librement tout ce que je ressens.
Mais on parle d'incarnation concernant l'art de l'acteur. On devrait peut-être parler plus précisément d'incorporation. D'ailleurs, l'origine, elle est réellement là, hein, l'origine catholique du mot. Ce qui m'amène à une phrase qu'a écrite Valère Novarina, auteur de théâtre contemporain, qui dit qu'il faudrait pouvoir ouvrir le corps de l'acteur pour voir de quelle manière les écritures et les langues rentrent à l'intérieur de son corps, ce que précisément vous êtes en train de nous expliquer, André Dussolier, et de quelle manière ça vient se loger dans ses organes, descendre dans ses poumons, suivre sa trachée artère, aller bousculer son foie, côtoyer l'estomac. Où vont les mots que vous apprenez, André Dussolier? Où est-ce que vous stockez les textes? Comment votre mémoire travaille-t-elle? Grosso modo, comment répétez-vous? Comment apprenez-vous un texte? Ouvrons cette fabrique-là de l'acteur.
Je ne peux pas l'apprendre de façon mécanique et de façon scolaire. Je l'apprends mieux, le texte, je le retiens mieux si je le vis. Par exemple, je travaille les films ou les pièces avec un partenaire déjà en amont, qu'on appellera un répétiteur, mais avec lequel j'éprouve le besoin de vivre les scènes, quoi. Et je les apprends comme ça, c'est-à-dire que je fixe sur les mots que j'apprends des émotions, déjà, ou des sentiments, ou des réactions, ou des manières de ressentir les choses. Je peux pas apprendre... et ensuite restituer dans une deuxième étape les mêmes mots avec des sentiments que j'aurais greffés. Non, je peux pas. Il faut que dès le départ, je puisse ressentir les choses. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que ça s'est inscrit ou ça s'est gravé comme sur une pâte à modeler. Et donc, du coup, je les ai à ma disposition. Ils sont pas loin, quoi. C'est quelque chose que j'ai pratiqué, que j'ai pu échanger en amont des répétitions de théâtrales ou du film. Et après, quand on est sur scène, quand on répète avec ses partenaires, eh bien, il y a plusieurs... C'est vrai, souvent, on nous fait cette allusion, mais où est-ce que vous avez, quelle mémoire vous avez, etc. Mais la mémoire, il y a plusieurs mémoires, j'ai envie de dire. Il y a la mémoire de l'espace, parce que quand on donne des répliques à ses partenaires, on est à tel endroit et non pas à tel autre. Et puis, d'être à tel endroit, assis, ou bien couché, ou bien debout, ou bien le dos tourné, ben, c'est quand même une inscription émotive un peu particulière et personnelle qui fait que vous n'allez pas dire cette phrase... de telle ou telle façon, c'est vous avez choisi que c'était la meilleure façon de la dire comme ci ou comme ça, ou vous avez prouvé le besoin de vous lever ou de rester assis. Enfin bon, voilà, par exemple dans Mélo, souvent l'auteur Bernstein disait à cet endroit-là, parce que comme tout auteur de théâtre, quand il y a un monologue qui est trop long, il dit, pour animer un peu la chose, il dit, à telle réplique, il se lève, puis après, à telle réplique, il se rassoit. Et moi, je vivais la chose quand je répétais, et j'ai dit à Alain René, mais c'est, franchement, Alain, j'éprouve pas le besoin du tout de me déplacer, c'est très artificiel, c'est très théâtral. Il me dit oui, d'accord. Et donc, on était au cinéma, on a profité et je sentais que je pouvais beaucoup plus dérouler mon fil de vérité du récit en restant là comme j'étais. Et voilà. Donc, du coup, il y a plusieurs mémoires. Il y a le lieu dans lequel on est, il y a les partenaires qui vous envoient la réplique. Mais si ce n'est pas des partenaires, par exemple, dans Novecento, il y a un moment, mais vraiment, où j'étais content de pouvoir inventer avec le pianiste. Elio Di Tana, je lui posais des questions, il est censé incarner Novecento, et je lui dis, mais pourquoi tu descends pas, pourquoi tu vas pas à terre au moins une fois, etc., rien qu'une fois, etc., et lui me répondait avec des notes de musique, et moi je sentais à la dernière note de musique que de toute façon ça y est, il était parti sur son plaisir d'être musicien, uniquement musicien, qu'il avait rien d'autre à me dire que ça, et donc j'avais une manière de lui répondre avec, en agitant le pied juste de deux façons comme ça, qui était juste dans le rythme qu'il imposait, comme pour dire voilà, je te compris. Je sais que tu vas rester à ton clavier de 88 notes et que c'est là ton univers et ton plaisir. Enfin voilà, il y a des tas de choses qu'on trouve avec tout son corps. C'est peut-être la possibilité qu'on a quand on sort de la salle d'enregistrement et quand on est sur scène ou devant une caméra, c'est de pouvoir jouer avec tout ce qu'on est. Mais vous voyez, je recommence à ne plus vous regarder, à être un peu concentré sur ce que je dis.
Vous rentrez dans vous-même, mais c'est très bien, André Dussolier. Mais je vais vous demander de ressortir pour répondre à cette question. On dit souvent que pour les comédiens de théâtre, ce qui est très important, enfin une des choses importantes, c'est de soigner les entrées sur le plateau et les sorties. Comment est-ce que vous rentrez dans la phrase et comment vous en sortez? Est-ce que c'est important pour vous? Parce que pour vous avoir vu jouer au théâtre, pour vous avoir écouté dans des fictions à la radio, pour vous avoir vu aussi au cinéma, vous prenez soin de tous les mots. Il n'y a pas d'élision, vous n'en négligez aucun, même le plus petit, même le plus trivial. Ils sont tous dits. Vous respectez les silences, mais vous les tordez à votre manière. Et je me demandais où était pour vous l'attaque de la phrase, à quel endroit vous la placez, où est la sortie, quelle est cette relation, encore une fois très physique, que vous avez, organique, que vous avez avec la phrase. On peut parler de Proust, mais on peut parler de Baricot, on peut parler des poètes que vous avez joués, on peut parler de Victor Hugo, de Jacques Prévert, on peut aussi parler de Nathalie Sarraute.
Ou d'auteurs que je n'ai pas joués. Je pense à, par exemple, il y a deux rôles que j'aurais bien aimé jouer, qui sont dans Ruy Blas de Victor Hugo, qui sont Don César de Bazan et Don Salluste. Et Don César de Bazan, quand il débarque comme ça, descendant de la cheminée, bon voilà, il y a tout un monologue qui est là et qui, alors, tout d'un coup, il est là, il n'a pas le temps de prendre un silence, parce que j'avais envie de vous dire, le silence est très important quand on rentre en scène aussi. Enfin, mais ça dépend de dans quelle situation on est. Là, Don César de Bazan qui arrive et qui débarque dans cette salle et qui croit qu'il dérange tout le monde, tout d'un coup, il s'adresse à tout le monde, pensant qu'ils sont tous là, et il n'y a personne, en fait. Enfin, c'est pour dire qu'il y a différentes façons, quoi. Ça dépend de la situation, ça dépend du personnage. Moi, j'aime beaucoup les silences, mais il ne faut pas que ce soit systématique. Il faut qu'un silence soit en situation, et il faut que... Mais j'aime... Vous savez, quand vous êtes avec un auditoire et que tout d'un coup, vous ne parlez pas, il y avait même des gens qui avaient été très loin. Il y avait toute une troupe de théâtre, Living Théâtre, dans les années 70 à
Julien Lyon. Beck et Judith Malina.
Beck, exactement, où il restait là, posté sur la scène, et où il restait silencieux pour pouvoir, ça c'était une autre technique, pour casser le mur entre spectateurs et acteurs, pour faire réagir les spectateurs. Bon, c'était vraiment la provocation. Mais en tout cas, le silence, si vous rentrez dans une salle ou sur une scène et que vous dites rien, ça crée une attente qui devient grandissante, quoi, bien sûr. Mais après, il faut pas en jouer comme quelqu'un de, comment dire, de séducteur ou de machiavélique ou d'artificiel. Faut que ce soit vraiment justifié par la situation, par le personnage, par les mots qui vont suivre, quoi. Il faut vraiment que ce soit toujours juste et vrai et en phase avec l'auteur.
Il y a des silences qui peuvent n'être pas volontaires et qui peuvent être des accidents qu'on subit plus qu'on ne les choisit. Ça s'appelle un trou.
Ah oui.
Tous les comédiens ont connu ça. Vous nous parliez lundi de la citation du billard sur le parachute. Il faut savoir sauter en parachute et savoir que peut-être le parachute ne va pas s'ouvrir. Mais vous avez déjà vécu des accidents de cette nature sur une scène de théâtre. Et est-ce que c'est quelque chose à quoi il ne faut surtout pas penser, histoire de conjurer le sort, André Dussolier, pour pouvoir justement entrer sur le plateau et dire son texte?
Oui, j'ai constaté souvent que
qu'est-ce qui pourrait créer un trou chez vous? Le public, par exemple?
On ne sait pas très bien. On dit toujours qu'au bout de la 100e représentation, on est très vulnérable au trou, quoi, parce qu'il y a un automatisme quand même, ou des repères qui sont tellement là présents dans votre corps, dans votre... dans votre esprit, que vous êtes en pilotage automatique, que tout d'un coup, voilà, le fait de ne pas être présent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, fait que le trou vous menace. Et je l'ai vécu avec plusieurs fois à mon corps défendant, et vraiment, j'étais tout seul, c'était dans une pièce de Guitry, Faisons un rêve, et le deuxième acte, le personnage est tout seul, tout d'un coup, j'ai eu un trou, donc évidemment, il est au téléphone, alors ça me permettait, j'improvise, dans ces cas-là, on attend toujours que ça revienne. Et je disais ne quittez pas, et donc j'ai erré au fond de la scène, et par chance un camarade qui était le valet-chambre a compris et m'a soufflé le mot. Mais en fait, quand on se dit peut-être en scène, oh là là, qu'est-ce que je dis là dans 3 répliques ou dans 5 ou dans 2 minutes, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là, plus on y pense, plus c'est foutu. Donc il faut au contraire passer et sauter l'obstacle, enfin continuer ou arrêter de penser, pour que tout d'un coup votre corps restitue le mot qui va venir un peu de façon automatique, quoi. C'est assez prodigieux, parce que c'est quelque chose d'irraisonné, d'irréfléchi, d'incontrôlable. Du Billard, avec qui je jouais le Pain de Vapeur, qu'on a joué malheureusement trop peu de fois au Théâtre de l'Atelier, a eu un trou le jour de la première, le pauvre. C'était avec Darry Cole, il avait écrit cette pièce exprès pour Darry Cole, c'était une pièce vraiment très drôle, très absurde, et donc Darry Cole n'avait pas joué ce rôle-là, donc il avait repris le rôle de Darry Cole, et donc il était un peu fragile, parce qu'il avait fait aussi la mise en scène, et donc tout d'un coup il a un trou. Mais aider un acteur dans une pièce de billard, c'est impossible, parce que le langage n'est pas, c'est pas passe-moi-le-sel, quoi. C'est vraiment, vous voulez me dire que non, on peut pas, c'est tellement absurde. Tout d'un coup, bon, alors à ce moment-là, c'est des cauchemars, parce que j'étais avec Yvonne Clèche en scène, on était tous les deux, et il y avait du billard qui était au milieu de nous deux. Et là, le régisseur, à l'époque, il y avait un régisseur qui était dans la coulisse et qui soufflait, tout le monde entend le mot, y compris le public, sauf du billard. Quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un trou, et lui est dans un trou dont il ne sort pas. Et donc là, il ne s'est pas dégonflé, il est sorti de scène, il est allé lire par-dessus l'épaule du régisseur, et il a dit, bah, comme le dit ce jeune homme, il a enchaîné. Enfin, voilà, il a assumé le trou, et donc tout le monde a ri ou souri. Mais dans ces cas-là, on rit jaune quand même. Mais bon, il faut essayer de survoler cette peur qui peut tout d'un coup, parce que le trou, il est toujours un peu, il avertit quand même par un petit signal, par une espèce de petite crainte, et il faut la chasser.
Mais est-ce que vous faites comme certains de vos camarades qui, avant les représentations, font de la méditation ou préfèrent faire des siestes ? Jacques Gamblin me disait que lui, son rêve serait de se réveiller sur le plateau et que ça avait déjà démarré et que voilà, il est dessus et il n'a plus le choix. Est-ce que vous avez vos méthodes à vous, vos rituels, petites marottes qui permettent voilà, de gagner ce temps-là du rendez-vous du théâtre qui est incompressible à 20h ou 20h30, vous êtes sur le plateau et pas à 20h31, André Dussolier. C'est drôle de pression hein, quand on y songe.
C'est vraiment une manière de se préparer qui est très très particulière, quoi, parce que c'est vraiment d'une seconde à l'autre qu'on va se lancer dans le vide un peu, parce que ça ressemble au vide, même si c'est pas tout à fait ça, mais quand même, on a un parachute, contrairement à ce que disait Dubillard.
Qu'est-ce que vous faites alors, vous ?
Eh ben, il m'arrivait quelquefois, par exemple en diplomatie avec Nils Arestrup, il rentrait lui-même le premier en scène. Et moi, je rentrais, il y avait toute une scène qu'il avait avec les soldats, etc., à l'intérieur de l'hôtel, et moi, je rentrais 7 minutes après. Il ne fallait pas que j'entende, ou je n'avais pas envie de sentir les rumeurs de la salle, mais pourtant, j'étais obligé de connaître, d'avoir des repères, le repère de savoir, pour savoir à quel moment il fallait que je descende l'escalier de ma loge pour aller jusqu'à la scène. Et donc là, on a envie d'arriver vierge, quoi, complètement libre, comme le personnage peut l'être, puisque je jouais Nordling, l'ambassadeur, qui le surprend dans sa retraite cachée, là, et qui va essayer de dialoguer avec lui pour éviter que Paris soit détruit. Et donc, je voulais être dans cette condition. Et bien, dans ces cas-là, j'ai envie de banaliser ce moment-là. Et je ne veux pas vous dire tout ce que je faisais, mais vraiment, j'étais là presque en rangeant des choses qui n'avaient rien à voir avec la pièce, ou en nettoyant des parties de l'endroit où j'étais, pour me distraire, pour oublier, pour ne pas penser, pour que mon esprit ou ma concentration ne soit pas absorbée ou déjà alourdie par le moment que je devais vivre de façon extrêmement légère, virginale, et comme si vraiment j'étais le personnage qui allait rentrer dans la pièce et qui ne s'attendait pas à voir Scholtitz joué par Nils. Donc je me donnais des tâches très très petites, très très de tous les jours, quotidiennes, de nettoyage, etc. Pour que tout d'un coup, enfin j'exagère, mais il y avait un peu de ça, pour que tout d'un coup je sois le plus disponible possible à ce moment où j'allais tomber sur lui en entrant en scène. Il fallait vraiment que je fasse le vide, quoi. Voilà. C'est tout un travail pour faire le vide. Alors après, dans le Novecento, par exemple, c'est un monologue, je suis le premier à rentrer en scène. Donc il y a quand même un moment de concentration, de silence, de calme, d'oubli de sa personne, d'oubli de tout, et ça prend du temps. Je sais que Bouquet ou Hirsch arrivait à 4h de l'après-midi dans leur loge, je ne sais pas ce qu'ils y faisaient, Bouquet il répétait beaucoup les mots, Hirsch je ne sais pas, mais moi je n'arrive pas à 4h parce que j'aurais le temps de me plomber et de m'inhiber au maximum, ce serait trop dangereux, mais je ne fais pas non plus comme le Lucchini qui arrive au dernier moment par exemple, ou comme Pierre Arditi, je ne sais pas, ils arrivent peut-être un peu tardivement, ils arrivent à sauter à pieds joints sur la scène, comme ça non, il faut quand même que j'arrive un peu avant, et puis après je me prépare pour être le plus disponible possible à ce qui va se passer.
Mais qu'est-ce que vous dites du spectacle qui s'annonce, André Dussolier ? C'est quoi ? C'est une durée que vous allez devoir franchir ? C'est une montagne sur laquelle vous allez devoir grimper ? C'est un fil tendu au-dessus du vide ? Vous avez une appréhension visuelle, sensitive, sensorielle de ce moment-là de rencontre avec le texte et le public en face ?
Alors, je ne dois surtout pas me dire que c'est une montagne, que c'est un ravin.
Pourquoi ?
Qui est énorme. Ah ben parce que sinon, je vais alourdir l'émotion, ou je vais la charger, ou je vais me charger de crainte et de peur. Je dois au contraire travailler à ne pas savoir ce qui va se passer dans la seconde qui suit mon entrée en scène. Je dois, comment dire, c'est prétentieux de dire ça, parce que je le sais bien ce qui va se passer. Mais justement, l'art de l'acteur, c'est de savoir et de faire comme si on savait pas. Pour donner au spectateur l'illusion que tout d'un coup, il assiste à quelqu'un qui est en train d'improviser, quoi, de dire les choses comme si vraiment il était en train de les dire devant vous, sans préparation. Eh bien, voilà, c'est ça qui fait que lorsque je rentre en scène, je dois être dans un état de disponibilité totale qui fait que le silence va être le mien, et puis les mots, la manière de tricoter les choses vont m'appartenir, et je vais avancer, et je ne dois pas savoir jusqu'où ça va m'emmener. La pire des choses, surtout dans un monologue, parce qu'on est face à un public, quand on est avec des partenaires, c'est pas la même chose, mais quand on est avec un public tout seul, quand on raconte une histoire, c'est un peu difficile, parce qu'on est plus craintif, je pense. Et la pire des choses, c'est qu'à la fin du spectacle, on me dise « Ah, oh, t'as mis 2 minutes de moins. » Alors là, 2 minutes de moins, c'est mauvais pour moi. C'est mauvais parce que ça veut dire que j'ai pas... Ça veut pas dire que le fait d'être long et comment dire, complaisant serait meilleur. C'est pas ça. Ça veut dire que quand même, le spectacle, j'ai pu vérifier qu'il avait un certain rythme, un certain moment, un certain tempo, que les moments où j'ai pu le jouer au mieux, c'était quand je prenais mon temps un peu dans tout et que je pouvais faire toutes les nuances possibles de paragraphe en paragraphe ou d'histoire en histoire, ou voilà, de moments différents en moments différents. Et donc, du coup, si je vais trop vite, ça veut dire que j'ai survolé les choses et que je ne les ai pas vécues à fond.
Vous parliez tout à l'heure des mémoires, André Dussolier. Est-ce qu'il y a une mémoire obsédante d'un texte en particulier ou d'un poème qui ne vous a pas quitté?
Oh ben, il y a des poèmes, c'est plus facile de s'en souvenir. Alors, évidemment, il y en a certains comme ça qui me restent en mémoire. Quelques-uns, oui.
Est-ce qu'il y en a un qui reviendrait ici devant les micros de France Culture, au moment où on est en train d'en parler, nous sommes en train d'en parler.
J'ai pas fait de vérification de ma mémoire, alors je me lance, mais braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant, vous perdîtes tout. La haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs, que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufle, porte close, chez vous. Sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur. Ou si vous aimez mieux, vous murmurez, tout seul, croyant presque vous taire dans le fond d'une cave, à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court, à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre, tenez, il est dehors. Il connaît son chemin, il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport. En règle, au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit les quais, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Alors, ça, c'est le mot de Victor Hugo.
Donc ?
C'est tout, c'est un poème de Victor Hugo.
Magnifique.
Ça s'appelle Le Mot et c'est pas mal, c'est une époque où on parle beaucoup de la rumeur. Donc voilà, c'est un mot qui est écrit avec une... Enfin, c'est un poème qui est écrit avec une modernité. Et alors là aussi, où le rythme compte beaucoup, quoi. Je me suis laissé dire que Georges Leroy, qui était un ancien professeur au conservatoire et qui a dirigé Gérard Philippe et d'autres, faisait beaucoup dire ce poème parce que il y avait pour les comédiens matière à justement à trouver des rythmes, quoi, et à trouver, à voir ce qui se passe, à raconter ce qui se passe. Alors je ne sais pas si l'auditeur a pu le percevoir. Je ne sais pas si j'espère que ma mémoire a été fidèle, mais il me semble bien que oui. Et donc voilà. Mais il est très connu ce poème, non ?
Ben, on se quitte avec ce mot, André Dussolier, ce mot de Victor Hugo. Merci beaucoup.
Merci à vous.
De nous avoir reçus chez vous pour ces entretiens. Merci.
Merci.
Fin de cette rencontre de Joël Gaillot avec André Dussolier. À voix nue, Réalisation Christine Robert. Prise de son Thibaut Nassine-Ben. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.